Il est 11h sur Radio Campus Tours. Bienvenue si vous nous rejoignez, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons parler musique arabe et orientale en France. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'avoir en studio avec moi deux invités. Une chercheuse, Talia Bachir Loupuit, bonjour.
Bonjour.
Que vous avez déjà entendu sur nos ondes pour présenter une série de podcasts des étudiants en musicologie. Et Talia, vous êtes accompagnée de Thomas Loupuit, bonjour.
Bonjour.
Voilà, musicien, joueur de oud. Alors, quel bon vent vous amène dans nos studios ?
Eh bien, merci beaucoup d'abord, Mélissa, de nous accueillir. Aujourd'hui, donc, pour une actualité de recherche et culture en même temps, puisque demain se tiendra à l'université, sur le site à côté de la MSH, une journée d'études que j'organise sur le thème des musiques arabes et orientales en France, et qui sera suivie d'un concert le soir en salle Okegem. Donc c'est pour cela, et puis c'était l'occasion de parler de ce qui m'occupe cette année. La dernière fois, effectivement, je suis venue en tant qu'enseignante. Aujourd'hui, je suis en délégation CNRS qui me permet d'avoir du temps pour de la recherche, pour lire. Et c'est de cela dont je vais parler aujourd'hui. Et donc, je ne suis pas venue seule. Thomas, en plus disons d'être mon mari, est aussi un des musiciens qui joue ce soir et puis qui va accompagner demain deux chanteurs, une chanteuse turque et un chanteur marocain, et on aura l'occasion de parler de ça. Et puis aussi, il est enseignant à l'ENM de Villeurbanne. Il se trouve que dans mon programme de recherche, il y a aussi un volet qui s'intéresse à l'enseignement des musiques arabes en France. Voilà, donc du coup, ce sera pour l'illustration musicale. Il a amené son oud, mais aussi bien sûr parce qu'il est un peu mon objet d'étude, mais il n'est pas le seul. En France, heureusement, il y a d'autres lieux et tout un monde de musiciens, d'amateurs de musique, d'institutions, d'associations très actives dans la promotion de ce large champ de musique.
Alors, est-ce que vous voudriez nous donner quelques précisions sur ce qu'est une délégation CNRS ? Je ne suis pas sûre que tous nos auditeurs et auditrices comprennent de quoi il s'agit.
Oui, une délégation CNRS, quand on est, comme moi, enseignante-chercheuse à l'université, qu'on est occupé par l'enseignement, par la responsabilité de diplôme, pas fort par des projets culturels, toutes ces choses dont je suis venue parler, c'est une possibilité pour les enseignants-chercheurs et enseignantes-chercheuses de s'extraire de la partie pédagogique pour un an. Donc on dépose un dossier qui est ou n'est pas retenu. Alors là, j'ai pu avoir la chance d'obtenir une année. Et ça permet donc de rejoindre un laboratoire CNRS pour mener un programme de recherche. En l'occurrence, je suis rattachée à une équipe qui est basée à Bordeaux, le laboratoire CNRS Passage, au sein duquel il y a une équipe qui m'intéressait plus particulièrement, qui est celle de LARI. C'est en anglais, mais c'est donc un institut de recherche en anthropologie de la musique. Harry aussi, c'est une référence à un mot basque. On est au Pays Basque, c'est à Bayonne, l'équipe de Harry est basée à Bayonne. Ça veut dire fabriquer, et c'est une équipe de chercheurs qui s'intéresse à la fabrication de musique et à tous les enjeux qu'elle porte sur le plan sociétal, à ce que peut la musique dans le monde, dans les sociétés, mais aussi dans notre propre société, dans des domaines aussi divers que la santé, l'accueil des migrants, l'éducation musicale. Quel est ce pouvoir de la musique, cette importance, cette place forte qu'elle a, et aussi toutes ces attentes qu'on a vis-à-vis d'elle pour soigner, pour parfois être un outil de cohésion sociale pour aussi voilà, porter des choses qui vont au-delà de la musique. Donc ça, c'est ce que porte Denis Laborde, qui est le directeur de cette équipe et que je suis très heureuse de retrouver cette année, puisqu'il était auparavant mon directeur de thèse.
Il est question d'un festival aussi.
Ah oui, tout à fait. Oui, l'ARI, cette équipe à Bayonne, organise depuis 10 ans maintenant un festival, le festival ICBGI, qui est soutenu par le CNRS, qui est soutenu par le HESS à Paris, et aujourd'hui par différents mécènes, dont la Fondation Carasso, qui est une des fondations en France qui finance des projets art et sciences, des projets aussi, comme on dit, à vocation participative. Donc la Fondation Carasso, voilà, c'est bien plus ancien que cet engouement récent. Et donc ce festival, j'y suis allée de manière systématique, bien que voilà, je sois assez prise par mes obligations à Tours, mais c'est un petit peu ma bulle d'intelligence que je retrouve chaque année en octobre à Bayonne, dans laquelle on va trouver des chercheurs d'horizons très différents, des musiciens, des médiateurs investis dans les mondes de la musique et avec qui on discute ensemble. Il y a des concerts, il y a des conférences, des débats, il y a des formations aussi au film et au documentaire sonore. C'est un lieu dans lequel je suis investie. C'est porté par une association dont je fais partie et dont je viens de rejoindre le bureau.
Ah, du documentaire sonore, ça m'intéresse. Je prends bonne note. Vous avez souhaité nous faire écouter Thierry Robin. Alors peut-être. voilà.
Oui, il faut que j'explique tout de même parce que je n'écoute plus beaucoup Thierry Robin. Mais c'est donc une figure un peu connue dans le champ des musiques du monde, de ceux qui vont creuser le sillon des musiques dites orientales. Thierry Robin, c'est quelqu'un qui est à la fois guitariste, joueur de oud, joueur de bouzouki, qui touche à beaucoup d'instruments, qui a créé des projets comme ça associant différentes cultures autour de la Méditerranée. Bon, je parle de ça parce que je voulais expliquer un peu comment j'étais venue à m'intéresser aux musiques arabes et orientales. C'est autour de mes 18 ans, je crois, que j'ai commencé à écouter beaucoup de oud. Et Thierry Robin, à cette époque-là, était une des figures qui tournait, que je suis allée voir un peu systématiquement, qui a été le premier que j'entendais. Donc je me disais qu'on pourrait commencer quelque chose par quelque chose qui a pu peut-être tomber aussi dans l'oreille d'autres auditeurs déjà.
Alors, on va écouter un extrait qui vient de l'album Un ciel de cuivre et peut-être qu'il ne joue pas du oud ici. Thank you. d'écouter un extrait de l'album Un ciel de cuivre, album qui date de 2000. Alors on entendait Thierry Robin. Alors moi j'ai de la chance parce qu'en studio j'ai deux experts en musique et du coup ils commentaient cet extrait. Donc je vais leur laisser la parole pour qu'ils puissent nous faire un retour d'écoute. Qu'est-ce que vous aimeriez dire l'un et l'autre sur cet extrait?
Alors bon, ça fait un peu un exercice en aveugle parce que j'avais pas préparé celui-là, mais c'est vrai que Thierry Robin, c'est assez... Donc moi je l'entends par rapport à l'histoire personnelle d'une fin de l'adolescence, découverte de l'Orient, de... Voilà, j'ai des origines aussi au Maghreb, mais jusqu'ici j'avais fait une éducation en France, plutôt tournée sur l'Allemagne, voilà, et donc j'avais... cette période 18 ans, un intérêt de plus en plus fort, de retour un peu aux racines, mais dans cet univers très vaste de la Méditerranée. Et Thierry Robin incarne ce type d'idéal, de projet qui associe différentes cultures. Alors là, ça va plus loin que la Méditerranée, parce qu'on entend un harmonium indien, on entend un chanteur, j'imagine, de flamenco, mais c'est vrai que ce qu'il chante n'est pas du tout sur un rythme traditionnel flamenco, on entend le daf. Donc déjà dans la formation instrumentale, c'est assez composite. Et ça, voilà, c'était en fait, c'est Thierry Robin et un ensemble de musiciens qu'il a constitué au fil des années et qui interprètent des répertoires de différents pays et qui souvent aussi, ça va être associé, c'était associé à la danse. Voilà, c'est vrai que je n'ai pas réécouté ça depuis très longtemps. Et du coup, ce n'est pas du tout aussi ce sur quoi j'ai formé ma compétence d'ethnomusicologue, mais ça a été un peu un déclencheur. Thomas, qu'as-tu à dire ?
Mais je n'ai rien à ajouter. L'exercice d'analyse est parfait. Qu'est-ce que tu veux ?
En tout cas, à l'écoute de cet extrait, on entrevoit la complexité des étiquettes musique orientale, musique arabe, musique d'Orient. Donc peut-être que vous voulez poursuivre.
Oui. Effectivement, ça nous plonge en plein dans ce sujet. Ici, on a une démarche effectivement de quelqu'un qui traverse les frontières et pour qui la musique est vraiment un vecteur de dialogue et porteur de cet idéal d'aller au-delà des frontières culturelles, religieuses, là jusqu'à l'Inde, un Orient qui va très loin. Par la suite, à cette même époque, moi, je me suis prise de passion pour d'autres joueurs de oud, comme Omar Bachir, par exemple, plutôt la tradition irakienne, enfin Omar Bachir et son père Mounir Bachir, mais à cette époque, j'avais pu voir Omar Bachir en concert. Et puis, un peu par le hasard des choses, comme j'avais intégré une grande école à Lyon, j'ai appris que là-bas, il y avait une classe de oud tenue par Marc Loupuit. Et je me suis inscrite là-bas, donc je ne le connaissais pas au départ. Une démarche, Marc Loupuit, c'est un musicien voyageur qui a habité longtemps au Maroc, qui allait aussi se former avec des maîtres de oud en Turquie notamment, voilà aussi dans le monde arabe, mais essentiellement Turquie, et puis qui a forgé son jeu de oud, mais en puisant vraiment dans les sources des traditions orales. Mais je vais laisser tout de suite la parole à Thomas, puisqu'il est né là-dedans, Thomas. Et ça a même été, Thomas a été mon premier professeur de oud, pour la petite histoire. Voilà, et là, du coup, il y a ce encore une découverte d'une autre voie que peut prendre le oud, le jeu du oud, et avec un enseignement particulier à l'École nationale de musique de Villeurbanne, puisque j'ai eu cette chance, effectivement, en arrivant à Lyon, d'arriver à côté d'un des lieux dans lesquels il y avait un enseignement institutionnalisé de cette musique depuis déjà un certain nombre d'années. Et dans la classe de Marc Loupuit se retrouvait un ensemble de musiciens de différentes origines autour du oud et autour de différents ateliers de pratique. Et peut-être qu'on peut... Thomas peut présenter cette classe qu'il a reprise aujourd'hui et puis faire écouter petit peu son oud.
Oui, en effet. Donc c'est une des premières classes de musique orientale, on peut dire, si on, on ratisse un peu large, parce qu'on n'est pas seulement dans l'enseignement qui de la musique orientale à l'ENM de Villeurbanne, dans une pratique très définie d'un répertoire traditionnel en particulier, mais sur ce qu'on pourrait dire l'art des makamats, des modes mélodiques, donc quand même dans un monde oriental, moyen-oriental, qui va de la Turquie à la Syrie, et puis aussi dans des répertoires du Maghreb. Voilà, donc effectivement, mon père avait initié cette classe il y a plus de 25 ans, et puis j'ai repris ensuite le flambeau, et voilà, pour mon plus grand bonheur, c'est cet esprit de l'origine de cette classe est resté, et voilà, donc il y a une multitude d'origines qui se croisent, donc des gens qui sont curieux, qui viennent apprendre la musique orientale, qui viennent aussi bénéficier d'un enseignement oral, qui viennent découvrir ce qu'est l'improvisation dans les modes mélodiques, et puis évidemment aussi des gens d'origine maghrébine, d'origine orientale, qui viennent pratiquer leur répertoire, ou en tout cas essayer de se remémorer et de par l'instrument et le chant des choses qu'ils ont entendues depuis leur enfance. Mmh. Et puis il y a aussi dans cette classe une synergie plus large dans l'école, parce qu'il y a une tradition dans cette école de faire des projets intra-esthétiques, et donc ça existe toujours. Donc voilà, les opposés, enfin, ce qu'on pourrait qualifier d'opposés en termes d'esthétique, se croisent et puis se retrouvent sur scène avec des rendus de travail sur l'année. Voilà, donc ça c'est très intéressant, et on essaie de continuer cette dynamique.
Et donc tu as évoqué, Mélissa, le problème des catégories, parce que là on tombe... aussi dans un sujet de débat. Voilà, musique orientale, pour les uns, bon, c'est une expression comme ça qui a cours en France et qui est très imprécise, qui pour certains va être même scandaleuse, parce que c'est un amalgame entre le Maroc, la Turquie, l'Iran, l'Inde, et puis plein de cultures très 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 différentes au sein de chacun de ces pays. Y en a d'autres qui vont revendiquer l'idée, alors que l'étiquette elle est ce qu'elle est, mais qu'il y a des parentés par-delà les frontières. Par exemple, Thomas a évoqué ce thème du makram, le makam en Turquie, le mugam en Azerbaïdjan. C'est-à-dire cet art de mélodique. Voilà, on va parler de modalité dans notre langage occidental. Et une connaissance donc des différents modes qui va permettre, notamment s'exprimer à travers l'improvisation, qui va, dans le système des musiques traditionnelles, se traduire aussi par des petits ensembles. On n'est pas dans les grands orchestres, dans des petits ensembles dans lesquels les musiciens vont jouer en hétérophonie, c'est-à-dire pas tous la même chose, avec des variations, il va y avoir beaucoup d'ornementation. Donc ça, effectivement, il y a certains chercheurs, certains ethnomusicologues, comme Jean During, qui défendent cette idée qu'il y a des parentés. Ça ne veut pas dire que ce sont les mêmes musiques, pas du tout. Mais il y a quelques parentés, quelques phénomènes qu'on va retrouver jusqu'aux Ouïghours, par exemple. Les Ouïghours en Chine, étant une population musulmane, on va retrouver des parentés sur les répertoires vocaux. Voilà, mais d'un autre côté, tout le travail des ethnomusicologues, notamment, c'est de décrire les singularités, les spécificités de certains répertoires. Donc là, pour l'illustrer, on peut écouter quelques exemples. D'abord, on va entendre Thomas au oud, pour entendre aussi un certain son, parce qu'aujourd'hui, le oud, notamment en France, il y a beaucoup de musiciens, ils ne sont pas tous visibles, mais il y a aussi beaucoup de manières de jouer cet instrument qui est répandu au Maghreb, en Syrie, en Égypte. En Syrie, il y avait des grandes écoles de oud, malheureusement aujourd'hui en péril, mais il y a une énorme tradition qui se perpétue en partie dans l'émigration. Voilà, et donc écoutons un petit peu de oud, et puis après on pourra rentrer dans les dans les commentaires.
Voilà, juste pour ajouter, c'est que moi, je défends une pratique de certains instruments, d'une qualité sonore en particulier, celle qui va découler de l'utilisation de cordes et de plectres dans des matières naturelles, donc les cordes de boyaux. Le plectre, c'est une risha, donc c'est une plume d'aigle. Et donc, c'est important pour moi parce que c'est avec ces matières et puis un certain type de lutherie qu'on obtient un certain son. Donc, un son qui va privilégier les variations de timbre qui va donner une certaine énergie. Voilà, donc c'est tout un travail et qui aujourd'hui effectivement est un peu plus rare parce qu'on entend beaucoup de nylon et de plectre en plastique.
Thank you.
Merci Thomas pour cet extrait. Donc voilà, on en était resté au jeu du oud. Effectivement, là, Thomas vient de jouer un Taksim. Peut-être tu veux toi-même oui, nous expliquer c'est... ce que tu as joué. Un Taksim suivi d'une petite
pièce. J'ai joué un Taksim, ouais, donc une improvisation dans un makam Bayati, avec quelques explorations et, modales autour voilà, de Bayati. Et puis j'ai terminé avec sur la base d'un thème, un chant turc.
Et voilà, donc ça illustre par le biais du oud, qui est un instrument présent, bon, avec des particularités dans différents pays. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les joueurs de oud explorent souvent des répertoires, enfin souvent, pour certains, des répertoires de différents pays. Ça ne veut pas dire que ça s'unifie forcément, parce qu'il y a une très grande variété dans les types d'attaques, à la fois sur les choix des matériaux, comme l'a dit Thomas, mais aussi dans la rythmicité particulière. Certains vont aussi creuser des répertoires. Ici, Thomas nous joue une pièce de Turquie, mais il a d'autres projets sur le Maroc, où on va entendre vraiment aussi un jeu spécifique, pas forcément que dans le oud, mais dans le répertoire, comme dans l'ensemble Rarbein. Puis Thomas étant né au Maroc, c'est quand même une empreinte forte. Voilà, tout ça pour dire que dans cet univers des musiciens qui traversent des frontières, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des ancrages, des spécificités, des singularités fortes qui ressortent. Ils vont être marqués aussi par des répertoires, par des manières de jouer. Voilà, donc là, je voulais parler un peu de tout ça parce que c'est la découverte du oud, l'enseignement du oud à l'ENM de Villeurbanne. Ça a été un peu le point de départ pour moi d'une vocation d'ethnomusicologue. Mais aujourd'hui, c'est devenu un objet de recherche, c'est-à-dire 20 ans après. Ce n'était pas mon objet de recherche. Maintenant, après avoir travaillé plutôt sur des thématiques... enfin, sur le terrain allemand, j'ai beaucoup travaillé sur l'Allemagne et puis les musiciens turcs. Et ben, je m'intéresse finalement, je reviens à ce qui a été le point de départ et je m'intéresse à ces lieux, espaces dans lesquels existent aujourd'hui différentes démarches de transmission, de création autour des répertoires musicaux du monde arabe et puis voilà, jusqu'à l'univers du makam. Un des volets de ma recherche, c'est sur les lieux d'enseignement. Alors à l'ENM, j'ai ma mémoire, on l'a pas dit, mais c'est vrai que c'est une classe musique orientale, mais on va rencontrer des personnes qui ont des ancrages très particuliers, certains qui viennent parce qu'ils sont passionnés de Chaabi algérois. Là, j'ai revu récemment Nasser Hamzaoui, qui est un chanteur que j'ai rencontré à l'ENM de Villeurbanne. Il était venu comme élève de oud, comme moi, et puis après, il a créé son petit atelier de chansons populaires Chaabi. D'autres sont passés par là, comme Tarek Abdallah, qui est un joueur de oud d'origine égyptienne, qui enseigne aujourd'hui à Marseille. Voilà, donc ça veut dire que musique orientale, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement un flou. Après, ça donne... dans ce cadre très large, il pouvait y avoir différents parcours. Moi, pour ma part, j'ai beaucoup accroché aux musiques de Turquie, donc je suis partie en Turquie, et d'autres ont creusé d'autres sillages. Voilà, donc c'est un peu pour donner le cadre aussi de ce que sera la journée d'études demain. La journée d'études demain, enfin, c'est même encore plus large, mais ça part de cette idée qu'il y a des catégories très englobantes et insatisfaisantes, musique orientale, musique arabe aussi est très fourre-tout au fond, musique du Maghreb, etc. Mais que ces catégories, c'est aussi des moteurs d'action en France, parce que des fois, derrière ces catégories, il va y avoir des choses qui se passent, qu'il faut aller voir en pratique, parce qu'il ne faut pas s'arrêter juste à l'appellation. Et puis, il va y avoir aussi des débats, des personnes qui vont revendiquer justement le fait de se spécialiser. Actuellement, là, j'ai repris des cours à Bourges dans un autre conservatoire qui a développé encore plus tôt que l'ENM d'ailleurs une classe sous la direction de Rachid Gerbas, qui lui vient de la tradition classique d'Alger et qui c'est voilà, ce qu'on va apprendre à Bourges dans cette section de musique arabo-andalouse dirigée par Rachid Gerbas, c'est le répertoire d'Alger avec cette fois un accent mis sur le chant, la poésie arabe, voilà, un répertoire plus restreint sur le plan du territoire, mais avec toute une palette, c'est-à-dire que chaque élève doit apprendre le rythme, un instrument, le chant, l'arabe, etc. Donc c'est une autre démarche, et c'est devenu un de mes sujets de recherche aujourd'hui, cette question de comment ces pratiques qui sont quand même installées en France depuis un certain temps, ça tient à l'histoire de la colonisation, des migrations depuis le Maghreb, ça tient aussi aux échanges anciens avec l'Empire ottoman, il y a eu depuis longtemps, plus longtemps encore qu'en Allemagne, des musiciens turcs installés en France, et qui étaient aussi plus visibles, plus vite, parce que souvent c'était des francophones, il y avait des personnes comme Koutsi Agoner, qui est un joueur de naï installé à Paris. Donc ça c'est quelque chose dont on va parler demain, Martin Greve, qui est un ethnomusicologue allemand spécialiste de la diffusion des musiques de Turquie, des musiques de Turquie, et qui va parler demain de leur diffusion en Europe. Voilà, il a mis l'accent sur le fait que cette présence des musiques turques en France est en fait au fond plus ancienne qu'en Allemagne, mais elle se traduit de manière assez différente. Voilà, mais donc le cadre de la journée, c'est de penser à la fois ce que peuvent vouloir dire ces catégories, et puis après de rentrer dans des singularités. Et peut-être on peut poursuivre quelques écoutes pour annoncer aussi ce que sera le concert de demain. Dans lequel on va entendre donc deux petits ensembles avec à chaque fois le oud, mais un ensemble avec une musicienne chanteuse et joueuse de ney. Le ney, c'est la flûte en roseau, qui s'appelle Péline Bachar. Donc on pourrait entendre un petit extrait de son taxim de ney qu'elle nous a transmis, parce qu'elle ne pouvait pas être présente aujourd'hui, mais elle sera bien là demain en salle au Keugem. Voilà, c'est une joueuse de ney, c'est aussi une chanteuse, on entendra un peu plus tard sa voix.
Ah.
on vient donc d'entendre un taxim, donc une improvisation qui introduit le mode saba avec l'instrument qu'on appelle le ney, une flûte en roseau oblique, qui existe aussi dans différentes versions ou dans des versions analogues. Alors ici, on a un modèle turc, on a aussi un ney joué un peu différemment en Iran. On a aussi d'autres flûtes dans le Mashrek, dans le Maghreb, dans tout le monde arabophone. Voilà, ça illustre, là encore, des circulations historiques anciennes, mais aussi à un moment des ancrages aussi dans des territoires et des spécificités. Ici, Pelin Bachar, c'est une musicienne qui a été formée en Turquie à la tradition classique ottomane. Donc c'était la musique de la cour ottomane. C'était aussi une musique souvent à caractère, enfin qui pouvait avoir un caractère religieux avec les confréries soufis, et tout particulièrement le ney, qui est devenu progressivement au fil de l'histoire aussi un symbole de certaines confréries qui mettaient l'accent sur la pratique de la musique, de l'écoute, d'une certaine forme de danse qu'on a pu voir à Tours il y a quelques années, enfin la danse des derviches tourneurs, en fait une cérémonie, mais qui accorde une place centrale à la musique et à la danse. Alors là, on a entendu vraiment un taxim de ney très posé, ça installe un certain rapport au temps. C'est une phase dans une suite dans laquelle on va avoir aussi des musiques plus rythmées, plus dans différents cycles, des cycles très longs, des cycles courts, avec aussi souvent une gradation dans le rythme, dans la vitesse. Et voilà, donc ça illustre une tradition classique qui a une certaine histoire et qui aujourd'hui est transmise en Turquie dans les conservatoires. Pelin, elle a fait sa formation dans les conservatoires, mais aussi en parallèle dans cette forme de transmission qu'on appelle le meshk, qui suppose d'être lié à un maître en particulier, avec qui on va avoir des cours, mais aussi avec qui on va partager une relation aussi voilà, plus spirituelle et aussi plus quotidienne, partager des repas ensemble, suivre voilà, vraiment un enseignement sur le long et un enseignement qui n'est pas souvent pas que musical. Donc elle vient un petit peu de ce double ancrage. Elle a intégré ensuite un orchestre en Turquie. Et puis elle a suivi son mari en France, puisqu'il a été ici enseignant quelques années. Et elle se trouve donc aujourd'hui au Mans. Et c'est une des... Bon, pour moi qui apprécie beaucoup cette musique, c'est pour moi une des plus grandes musiciennes que j'ai rencontrées dans ce répertoire, mais qui est pour l'or encore aujourd'hui assez peu connue en France, pour plein de raisons, parce que quand on est une jeune femme musicienne originaire de Turquie, c'est, voilà, faire une carrière de musicienne en France, ça suppose déjà de régler la question des papiers, mais aussi de se connecter à des réseaux qui ont une certaine logique en France de fonctionnement. Il y a déjà des joueurs de ney, mais qui sont... voilà, donc elle développe petit à petit sa pratique, et c'est une des musiciennes que j'ai trouvé intéressant de mettre en avant pour le concert de demain, qui aura lieu donc en salle Okegem. Et elle sera... alors elle se produit souvent en duo avec son mari. Demain, elle sera accompagnée par Thomas pour rentrer justement dans ce répertoire de la tradition classique et qu'on puisse aussi entendre sa voix. On fera écouter tout à l'heure un extrait, mais elle a une voix assez extraordinaire. Voilà un extrait pour illustrer donc cette tradition classique turque. Et ce qu'on entendra dans la deuxième partie demain, c'est un chanteur, lui aussi, de la région, Ali Bidin, qu'on a pu parfois... peut-être que son nom est familier à certains qui suivent ici l'actualité des musiques du monde arabe, d'origine marocaine, qui est, quand il est arrivé en France, qui était... à la fois, il avait été baigné dans son enfance... par différents répertoires. Et puis, il s'est aussi ensuite, il a découvert d'autres choses. Il a eu toute une période aussi marquée par la chanson engagée, par le phénomène Nessel Riwen, qui était un groupe de chanteurs engagés marocains. Et c'est en France aussi qu'il a commencé à s'intéresser à la tradition classique andalouse et à d'autres répertoires. Donc c'est une illustration, c'est un autre thème de ma recherche actuelle, c'est les trajectoires de musiciens et ce que fait la migration à la pratique musicale. C'est-à-dire qu'aussi quand on quitte son pays, ben, on va se retrouver à avoir un autre regard vis-à-vis de certains répertoires. Et alors on pourrait peut-être écouter là un petit extrait d'un portrait sonore qu'avait réalisé un étudiant de musicologie il y a déjà 4 ans. Un petit extrait du portrait d'Ali Bidine qu'on trouve également sur le site internet du projet D'ici et d'ailleurs, qui explique ce qu'il a baigné dans son enfance. Et puis vous pourrez écouter la suite sur internet.
Et quand elle chantait, ça me faisait pleurer. Parce que c'était pas parce que c'est quelque chose qui me dérangeait, mais qui me remplissait d'émotions. Et je suis toujours un peu, par moments, un peu pris par cette à la gorge, par la mélodie, par le chant, par les voix. Je pense que le chant, c'est quelque chose que j'écoutais en fait de par ma grand-mère. Ma mère aussi chantait très bien, elle avait une très très belle voix. Mon père était un consommateur, on va dire, d'Om Kalsoum, donc la chanteuse égyptienne avec toute sa splendeur et sa voix exceptionnelle. Om Kalsoum et aussi par la musique arabo-andalouse, que franchement, je trouvais qu'il passait beaucoup de temps, surtout le dimanche après-midi, à l'écouter. Et que pour moi, c'était synonyme un peu de sieste, etc. Mais voilà, sans aller au-delà de ce que ça représentait. Peut-être pour moi, quand j'étais petit, ça représentait un peu le pouvoir, des moments solennels. Voilà, c'était ça mes impressions sur la musique arabo-andalouse, enfin la musique andalouse à cette époque-là.
Oui, on entendait Ali Bidine qui s'exprime donc sur les influences qui l'ont marqué petit, sa grand-mère, sa famille, mais aussi toutes les musiques qui l'entourait par le biais de son père, Oum Kalthoum. Donc, c'est déjà quelque chose qui montre que la culture musicale n'est jamais monolithique. Hein. Quelqu'un qui grandit au Maroc, et déjà, ce qui parvient à ses oreilles, c'est ce qu'il y a dans la famille, c'est ce qu'il y a dans l'entourage, les amis, mais aussi ce qui arrive par la radio. Et là, c'était le grand phénomène de la chanson égyptienne, la diva Oum Kalthoum. Et puis après, voilà, ça c'est assez drôle aussi ce qu'il raconte sur la musique arabo-andalouse. Ça me fait beaucoup penser, moi, à ce que me disait mon père aussi quand j'ai commencé à m'intéresser au oud. Mon père algérien, qui a vécu la plus grande partie de sa vie, en tout cas active en Algérie, et pour qui la musique, la tradition classique, c'était de la musique de vieux. Il ne voyait pas trop pourquoi j'allais m'intéresser à ça. Mais parce que quand on grandit dedans, oui, on voit, comme chez nous, un peu hein, les musiques classiques en fonction de classe, en fonction de paramètres peut-être d'âge, comme ça, générationnel. Et Ali Bidine est quelqu'un qui, une fois en France, s'est mis à se plonger aussi dans cette tradition classique. Pas que cela, mais à se plonger vraiment dans la poésie, la littérature, à jouer avec des musiciens qu'il a rencontrés ici à Tours. Rebab Al-Andalus, c'était un de leurs ensembles, avec Michel Gendre notamment. Et donc ça montre comment le regard sur sa propre culture peut se modifier aussi par l'expérience à l'étranger. Et demain, donc, il va interpréter un peu un répertoire assez composite qui montre ces influences multiples auxquelles il a été exposé. Alors on va écouter un extrait enregistré avec Thomas, et que Thomas pourra commenter ensuite. Thank you.
Voilà, donc nous venons d'entendre un enregistrement tout frais de répétition. Donc c'est un chant des Nasselriwan, donc un groupe des années 70 au Maroc qui s'inspirait beaucoup des musiques populaires. Donc là, normalement, on entend le banjo qu'ils affectionnaient particulièrement. Et là, moi, je joue l'otar, qui est un instrument d'origine berbère, un instrument archaïque, donc avec une sonorité très différente de celle du oud. Et donc, on s'inspire de ce morceau, on le remet un petit peu à notre goût, notre façon de faire, en improvisant. Voilà. Et donc on va écouter maintenant autre chose, c'est le Fiashia. Donc c'est plutôt le répertoire du Melhoun. Donc le Melhoun, c'est une musique populaire mais citadine et dont le texte présente un assez haut degré poétique. Voilà, on est dans une langue darija, donc dans une langue marocaine. Ce n'est pas de l'arabe classique ou de l'arabe ancien comme on l'entend dans la musique arabe-andalouse, mais c'est néanmoins une musique dont les structures sont proches de l'arabe-andalou.
Extrait donc avec Ali Bidine au chant et Thomas ici au oud. Voilà, c'est pour annoncer le concert de demain soir en salle Okegem, donc où ils joueront en deuxième partie. Et c'est l'occasion aussi d'évoquer ce thème fédérateur du concert de demain qui est le tarab. Le tarab, c'est-à-dire c'est un terme présent dans le monde arabe, mais qu'on va aussi trouver dans le monde persan, turc. Ça se réfère à l'effet de la musique, à l'émotion qu'elle suscite, qui va se traduire par des manifestations de la part des auditeurs, par un public actif, soit qui va pleurer, rire, mais aussi s'exprimer par des interjections. Et ça renvoie à cette idée d'une émotion partagée dans le moment de musique. Et demain, ça va se décliner finalement aussi à travers un large panel d'émotions ou ce qu'on appelle les ethos, à la fois avec des musiques interprétées par Péline Bachar. qui vont évoquer soit l'aspiration spirituelle, mais aussi l'amour, le thème du printemps. On pourrait écouter aussi un chant là, que chante Péline. Et avec les répertoires d'Ali Bidine, bah, aussi ces thèmes qui reviennent dans la littérature classique, mais aussi ce thème de l'engagement, de cette idée qu'avec la musique, on va changer le monde et qu'on va porter des messages sur la scène publique, ce qui a une force quand même aussi dans certains pays où la musique a pu être effectivement un vecteur d'expression de choses qu'on ne pouvait pas dire puisqu'on n'avait pas accès à la parole. Voilà, donc ça va être le thème fédérateur aussi du concert de demain. Peut-être écoutons pour finir cette présentation du concert et puis avant que je dise aussi quelques mots de la journée d'études qui précède, finissons par un petit extrait avec Péline Bachard qu'on a entendu tout à l'heure au Ney. Et voilà, dans un plutôt sur la partie vocale, puisqu'elle interprète, elle interprétera aussi demain soir des charques, des chants qui sont issus du répertoire classique, mais qui sont aussi pour certains très célèbres, très popularisés en Turquie. Voilà, donc on peut entendre ceux du mode Hijaz. D'entendre un enchaînement de pièces composées par Ismail Dede Efendi, un compositeur turc qui était aussi rattaché à la cour ottomane de Mahmoud II, début 19e. Ce sont des chants. Alors, lui, c'était un musicien à la fois avec une vie à la cour, mais aussi Mev Levi, donc membre d'une confrérie soufie. Et là, ces chants, le premier parlait de l'amour, de l'aspiration vers l'être aimé qui est à la fois voilà, la personne qu'on aime, mais aussi souvent dans la poésie soufie, en tout cas à mettre en lien avec l'amour de Dieu. Et le deuxième, Baharun Zaman Geldi, c'est-à-dire le temps du printemps est venu. C'est un chant de circonstance en ce moment, là, avec le beau week-end qu'on a eu. Voilà, c'est très représentatif des thèmes de cette poésie classique et de ces chants qui, au départ, étaient très liés à la cour. Et puis, une fois qu'il y a eu la République turque, ils ont vécu une autre vie. Ils ont été repris dans ce qu'on appelle les gazinos, notamment les restaurants, clubs, cabarets, dans lesquels se retrouvaient les amateurs de cette tradition. Et donc, ça touchait aussi un public plus large. Aujourd'hui, c'est un répertoire qui est énormément apprécié en Turquie. Voilà, parce que c'est vrai que la Turquie d'aujourd'hui est traversée par ailleurs par plein de changements, de bouleversements, de tensions, mais c'est vrai qu'il y a un attachement très fort au répertoire musical et au chant notamment, quelque chose dont a parlé l'ethnomusicologue Martin Stokes, qui, dans un livre qui s'appelle La République de l'amour, enfin c'est en anglais, et notamment cet amour de la chanson, y compris qui a pris des formes plus pop aujourd'hui, dans lesquelles on va retrouver aussi ces grands thèmes fédérateurs. Voilà pour présenter le concert de demain et qui fait suite à une journée dans laquelle on va brasser encore un peu plus large, parce que finalement ce concert, j'ai choisi de mettre en avant plutôt des figures de musiciens qu'on classerait ici en France dans la catégorie musique traditionnelle, parce que c'est vrai que ces musiciens-là sont assez peu souvent audibles à Tours, et que par ailleurs il y a la possibilité d'entendre parfois des oudistes ou des musiciens du Maghreb aux petits faucheux, mais plutôt par exemple dans le monde du jazz, au bateau ivre aussi, on a eu il n'y a pas longtemps Taxi Kebab. Mais c'est vrai que le domaine des musiques traditionnelles à Tours, il n'y a pas un lieu dédié, donc c'est ce qu'on va entendre le soir. En revanche, pour ce qui est de la journée d'études elle-même, l'idée était vraiment de rassembler des spécialistes de tous les genres musicaux possibles, et pour se poser la question de comment surgissent cet imaginaire d'un Orient, ou cette idée d'un monde arabe, ou disons des appartenances aussi plus singulières du Maghreb, d'Algérie, du Maroc, de telle ou telle ville, de telle ou telle région, des Kabyles, de toutes ces questions d'appartenance qui sont très fortes aussi dans les musiques. Donc avec des spécialistes de musique traditionnelle, mais aussi de musiques actuelles, de rap, de musique contemporaine, pour vraiment voir comment ça se traduit dans le champ musical de manière très large. Donc, sans dérouler tout le programme, peut-être dire quelques mots. Martin Grieve, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est lui qui va ouvrir la journée avec une réflexion sur les musiques de Turquie en France et en Europe. Mais j'en ai parlé déjà tout à l'heure, mais c'est vrai que son regard, et c'est un ethnomusicologue allemand qui habite en Turquie depuis maintenant une petite quinzaine d'années, qui est polyglotte et qui s'est spécialisé dernièrement dans l'étude des musiques kurdes en Turquie. Ce qu'il apporte, c'est aussi un regard très large, parce que c'est vraiment, d'abord c'est un des meilleurs spécialistes des musiques de Turquie dans le monde, mais il a aussi cette possibilité de comparer avec l'Allemagne, sur laquelle il a écrit un très beau livre, une somme impressionnante sur les musiciens turcs d'Allemagne. Et il connaît moins la France, mais c'est vrai que ce regard extérieur va nous permettre aussi de nous interroger sur qu'est-ce qu'on voit, ce qu'on entend des musiques de Turquie en France. C'est pas forcément ce qui a l'air le plus mis en avant Mais il y a une scène musicale à travers soit les réseaux de migration, soit aussi certains attachements, notamment aux musiques, à la musique ottomane, musique soufie, et puis certains festivals aussi qui les montrent. Alors lui, il va vraiment proposer un regard assez large, assez panoramique sur les musiques de Turquie en France. Et à l'inverse, on aura d'autres chercheurs qui vont proposer vraiment des regards plus... des études de cas. Je suis très heureuse qu'on accueille une historienne de Lyon, Charlotte Coureil, qui est spécialiste de l'Algérie contemporaine et qui a choisi de venir parler de la chanteuse Warda El Jazairia, qui est une chanteuse... qu'on appelle Warda l'Algérienne, mais qui en fait était de mère libanaise et qui a fait carrière notamment en France. Elle est née à Paris en 1939. Mais ce n'est pas seulement en France, donc ce n'est pas seulement entre la France et l'Algérie. Ça s'est joué aussi beaucoup au Moyen-Orient parce qu'il y avait tout un réseau aussi là, de la chanson arabe. Et donc c'est une trajectoire qui va nous permettre de comprendre à la fois ces mobilités entre France et Algérie, mais aussi le fait que beaucoup de choses se jouaient entre Maghreb et ce qu'on appelle le Mashrek, donc plutôt le Proche-Orient arabe. On aura aussi Karim Amou, qui est un des meilleurs spécialistes de rap français, qui est un chercheur pour qui j'ai une très grande admiration parce qu'il a... Il a su apporter vraiment un regard très riche sur l'histoire du rap français. Et demain, il va nous parler de la manière dont dans le rap, mais aussi dans d'autres champs de musique populaire, dans les années 80 notamment, émerge l'expression d'une identité maghrébine. Comment ça se traduit ? Alors c'est le grand moment c'est un petit peu avant l'émergence du rail. Mais voilà, il y a plusieurs phénomènes qui, dans ces années 80-90, qui font émerger sur la scène publique, à travers la musique, une revendication d'une identité maghrébine. Et ça m'intéresse parce que moi, je travaille aussi sur la même période, années 80-90. C'est le moment où aussi on va voir que dans certaines institutions, on va s'établir un enseignement des musiques traditionnelles et dont les musiques arabes. Enfin, c'est ce moment, en fait, assez charnière, à la fois de... on est 20 ans après la fin des décolonisations, mais il y a aussi les descendants de l'immigration qui revendiquent une place dans les institutions. Il y a un changement à la tête de l'État en France avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, mais il y a aussi beaucoup de choses qui se passent dans les politiques locales, dans les associations, qui font qu'on va mettre en avant soit le Maghreb, soit d'autres, soit les musiques arabes ou les musiques orientales dans un sens très large. Alors, faut relativiser, c'est pas partout en France. Mais il y a quelque chose qui se passe dans les années 80-90, et c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui, il y a aussi quelque chose qui n'a pas forcément perduré partout. Et qui ne s'est pas étendu partout. Pour ce qui est des enseignements, finalement, les classes de conservatoire qui ont ouvert à cette époque-là, Thomas connaît ça mieux que moi, mais il y a eu ensuite les classes de musique arabe ou musique orientale en France. Il y en a qui ont ouvert dans les années, fin années 80-90. Villeurbanne, c'était 91. Ensuite, il y a eu Roubaix, Créteil. C'est venu un peu après. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y avait Bourges avant? Oui.
Bourges, Villeurbanne, oui. Il y a Nice, conservatoire de Nice. Il y en a une petite demi-douzaine, il n'y en a pas tant que ça, mais quand même, voilà. Dans le paysage français, ouais, ça ne fait pas beaucoup, mais ça existe.
Oui, en tout cas, ça montre l'importance dans ce type de réflexion de croiser des différents regards. Donc il y aura des ethnomusicologues, des sociologues et aussi des historiens pour un peu aussi apporter ce regard de l'histoire récente ou de l'histoire de plus longue durée. Voilà, je ne vais pas tout détailler encore, mais la dernière session de la journée sera consacrée au thème des musiques et appartenances religieuses, avec entre autres Jessica Roda, qui est une chercheuse installée aux États-Unis, qui sera demain à distance, mais qui sera bientôt chez nous à Tours. Elle est spécialiste, elle, des musiques juives en Europe, musiques juives en France. Et elle va parler demain de la manière dont on met en scène l'identité juive, la judaïté, en arabe, en France. Et donc, ça fait référence à tous ces émigrés du Maghreb d'origine juive qui ont joué un rôle très important dans la vie musicale en Algérie, au Maroc notamment. Et voilà, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en France dans cette mémoire d'appartenance multiple qui croise des aspects religieux, un attachement à la langue arabe, et puis aujourd'hui une situation en France, dans quelle, voilà, comment ça vit et dans quel réseau, Et puis Séverine Gabry-Tiampon, elle qui travaille plutôt sur les musiques liturgiques chrétiennes en Égypte, donc chez les Coptes, qui elle s'intéresse à la manière dont on a construit un savoir sur ces musiques et la fascination un peu de l'Égypte antique qu'il y a derrière. Voilà, je n'ai pas parlé de tout le monde, mais on a des chercheurs de différentes disciplines. On va aussi dialoguer avec des musiciens, un directeur de festival, Alain Weber, qui est le directeur du Festival des Orientales, mais qui est aussi directeur de beaucoup d'autres festivals importants, Festival de Fès, entre autres, et beaucoup d'autres. Et Martial Pardo, qui est l'ancien directeur de l'École nationale de musique. Je trouvais très important pour cette journée qu'il y ait aussi un dialogue avec des acteurs du milieu investis dans ces problématiques et puis qui réfléchissent aussi, à partir de leur expérience, à cette diffusion des musiques arabes en France.
Alors, merci de nous avoir alléché avec ces concerts et ces conférences. Peut-être qu'on peut rappeler... où est-ce qu'on se rend alors? Parce que je crois qu'il y a eu un changement d'endroit pour les conférences et on peut peut-être aussi dire que c'est gratuit, je pense.
Oui, l'accès est libre, il n'y a pas besoin de s'inscrire. Et en effet, la journée d'études devait se dérouler au département de musicologie, qui est actuellement fermé. Et d'ailleurs, ce n'était pas une décision facile à prendre de maintenir ou annuler, parce que beaucoup des intervenants de la journée sont très solidaires des mobilisations d'aujourd'hui. Voilà, il se trouvait que comme des billets étaient réservés depuis l'étranger, depuis longtemps, et qu'une partie de la recherche continue demain. Donc on sera dans un local qui est attenant à la MSH, le site du département aménagement et environnement, DAE, de Polytech. Et ça se trouve au 35 avenue Ferdinand de Lesseps, donc tout près de Radio Campus aussi. Tout près de la MSH, et donc ce sera bien indiqué. Les informations sont aussi sur le site, donc ça c'est pour la journée, et le soir en salle Okegem.
Salle Okegem, et alors ce concert, est-ce qu'il y a une billetterie?
Alors le concert est organisé, merci de me donner cette occasion de le dire, avec le soutien de l'université et de la DRAC, et ce qui permet de proposer une gratuité à tous les étudiants et personnels de l'Université de Tours. Et on a mis une entrée libre pour les autres. Entrée à prix libre. Voilà, donc c'est bienvenu parce que c'est vrai qu'on était un petit peu limité sur le budget des cachets. Donc ça va permettre de compléter. Mais en tout cas, étant donné le soutien de l'université, de la DRAC, on a voulu vraiment rendre le concert accessible aux étudiants et au personnel de l'université, et donc les sous ne doivent pas être un problème.
Voilà, et bien merci beaucoup à vous deux d'être venus jusqu'à Radio Campus Tours pour nous présenter cette journée d'études et ce concert. Une question que je me pose depuis tout à l'heure, je la tiens dans ma poche parce que je vais me demander quand est-ce que je pourrais la poser, parce qu'on là vous avez parlé de musiciens et de musiciennes exceptionnels, hein, de musiciens professionnels, et je me demandais quel était le rôle des musiciens autodidactes sur la transmission de ces musiques, notamment dans les associations des diasporas. Est-ce qu'il y en a, et ces musiciens-là ou ces aspirants musiciens, est-ce qu'ils peuvent aussi participer à ces classes de musique? Parce qu'après tout, peut-être qu'ils n'ont pas de notion de musique, mais peut-être une oreille ou en tout cas un intérêt pour ces répertoires.
Merci, c'est une, C'est une très bonne question. Alors, des musiciens amateurs, comme on dit, faute de mieux, parce que ça a plein de sens, amateurs, mais donc qui ne vivent pas de la musique, il y en a. Ali Bidine n'est pas quelqu'un qui vit de la musique, il a un autre métier, mais il s'est formé, si on veut, de manière autodidacte, en écoutant beaucoup. Et sans suivre forcément l'enseignement d'un maître en particulier ou un enseignement académique. Donc demain, on aura ces deux facettes. Et c'est une réalité de ce milieu qui vit aussi par des passionnés qui ont un métier à côté, qui vit par des associations. Et la question de l'intégration dans les classes de conservatoire est très, très importante. C'est une bonne question parce que c'est vrai que je crois que dans la plupart des cas, le contact ne se fait pas. Et l'ENM à Villeurbanne, c'est vrai, avait cette particularité d'accorder une place aux musiciens adultes. Donc, ce Nasser Hamzaoui, dont je parlais tout à l'heure, qui est un ingénieur de l'INSA, par ailleurs fils d'un musicien et très, très amateur de charabi, a eu la possibilité de s'inscrire dans le conservatoire de Villeurbanne pour suivre des cours de oud, bien qu'il ait... qu'il ait déjà été adulte, professionnel. Mais c'est certaines écoles qui permettent, qui ouvrent leurs portes aux adultes et aux amateurs, et non seulement pour leur apprendre quelque chose, mais aussi parce qu'ils sont eux-mêmes porteurs d'un savoir qu'ils vont pouvoir ensuite transmettre un petit peu dans l'école. Nasser a eu ce petit atelier. Mais malheureusement, c'est une réalité, je crois, assez rare dans beaucoup de conservatoires aujourd'hui. Il faut rentrer à un certain âge. Alors après, le rôle va être joué par des écoles associatives. Les musiques... donc il va y avoir des chorales, des écoles comme Elma Ossili, par exemple, en région parisienne, qui se structurent comme des associations. Et par ce biais, il va y avoir une transmission, souvent au public d'ailleurs issu de l'immigration. Pas seulement, mais souvent par ce biais. Mais c'est vrai que cette question de la transmission est très importante et du lien avec les institutions.
Oui, mais c'est-à-dire que les institutions ne remplissent pas complètement ce rôle, c'est-à-dire de donner une occasion de jeu. On parle de musique amateur, moi j'aime pas beaucoup ce terme, parce qu'en fait, parmi les plus grands musiciens, il y a des amateurs au sens où ils ne sont pas professionnels. Effectivement, comme tu le disais, à l'ENM ou dans d'autres cas, on en profite parce que c'est vraiment l'idée d'un échange, d'un apport et d'un accroissement de connaissances. Donc c'est, de mon point de vue, le problème, il se pose en termes de lieux et d'opportunités de pouvoir se réunir et de jouer. C'est le thème de la pratique. En fait, à la fois les élèves, enfin, les élèves, de manière générale, n'ont pas assez de lieux et d'occasions de pratiquer la musique. Voilà, donc ça, c'est un problème sur lequel il faudrait...
Oui, ou d'avoir un enseignement suivi. Alors, donc, nous, ça fait quelques années qu'on est installé à Tours, et il est vrai que dans la région, il n'y a pas vraiment cette possibilité d'un enseignement. Je sais que c'est une réflexion en cours du côté... de Jazz à Tours, du côté aussi du pôle Aliénor, d'ouvrir un enseignement un peu plus tourné vers les musiques du monde, soit un peu ponctuel par les masterclass. Certains conservatoires ont fait ce choix de faire des masterclass ponctuelles. Et c'est une dynamique, à mon avis, nécessaire, qui pose plein de questions, parce qu'il faut avoir les bons médiateurs aussi pour identifier les personnes qui vont aller enseigner. Parce qu'il y a des musiciens qui n'ont pas aussi... la vocation de transmettre forcément, ou une vocation de pédagogue. Il va falloir aussi trouver ce juste milieu entre la spécialisation et l'approche, l'initiation. Donc dans l'initiation, c'est vrai que c'est bienvenu d'être plutôt large, de faire des exercices sur... Mais voilà, à un moment donné, c'est aussi intéressant de travailler un répertoire plus spécifique. Et puis comment on fait dans ces cas-là avec la langue, parce que des fois la langue est absolument centrale, donc il y a plein de questions qui se posent, et c'est pas du tout des difficultés insurmontables. Et je crois que il y a aussi une nécessité là pour les ethnomusicologues, je trouve un enjeu en tout cas de faire ce rôle pour aider juste à mettre en contact parfois certains acteurs du milieu et les institutions.
D'autant que, peut-être que je me trompe, ce qui est possible, mais il y a un vrai intérêt pour les danses, alors avec toutes les étiquettes du monde oriental, et donc après tout, pourquoi pas le chant ?
Oui, alors pour les danses, en effet, dans les milieux associatifs, et souvent avec la musique enregistrée, mais à l'ENM, il y a un département de danse qui s'est créé après le département de musique orientale, donc où justement il y a cette possibilité rare de faire travailler en interaction une classe de musique de danse orientale, une classe de percussion orientale, une classe de oud qui accueille aussi des instrumentistes. Alors après cette question d'instrument, Thomas est mieux placé que moi pour en parler, mais c'est vrai que c'est très important de transmettre un instrument, le oud, le ney, et puis quand même aussi de transmettre le répertoire d'ailleurs, enfin les répertoires plus global avec différents instruments. Donc c'est vrai qu'un oudiste peut aussi donner un cours sur un répertoire et accueillir des instrumentistes autres. C'est ce qui se fait à l'ENM et ce qui se fait dans d'autres lieux.
Oui, c'est ce qui se fait de manière souvent dans la tradition, on rencontre ça.
J'étais en train de chercher le nom de cet instrument qui est joué par les femmes où il n'y a qu'une corde. Imzad.
Ah, l'imzad, ah oui, la vielle. Alors, je ne connais pas très bien, mais alors ça, c'est vrai que je pense que ça... c'est Touareg, je pense, la vielle imzad.
Oui,
Là, on va être effectivement dans des répertoires où, je pense... Penser à un enseignement institutionnalisé de l'IMSAD, je ne sais pas si c'est possible, tout dépend en fait. Mais c'est vrai que là, on est dans un répertoire qui est très lié à une pratique sociale entre femmes et qui lui-même, déjà dans le pays d'origine, n'est pas forcément académisé. Mmh. C'est vrai que pour trouver des oud dans nos conservatoires, il y a eu toute une série d'étapes intermédiaires qui ont été que déjà ça a été enseigné dans différents pays, dans des traditions aussi classiques. Et qu'ensuite c'est devenu aussi un instrument de soliste, et ce qui n'est pas encore le cas de la vielle imzad. Mais on peut avoir accès à ces pratiques plutôt par des associations ou en retrouvant des groupes dans des associations culturelles aussi. Je pense, après ça va être plutôt les associations liées à la migration. Je sais que dans les associations turques, mais qui fonctionnent plutôt... qui ne sont pas forcément visibles, mais là, on va avoir des cours de danse turque, parce que c'est vrai que dans beaucoup de familles, on considère qu'il faut apprendre le halay ou d'autres danses pour le mariage, et ça, il va y avoir des cours de danse, mais c'est beaucoup pour les personnes d'origine turque.
Voilà, eh bien, merci, je ne vais pas abuser trop de votre temps, parce que vous en avez déjà donné beaucoup pour cette émission, merci. À vous deux d'être venus nous présenter cette journée d'études et ce concert qui a lieu demain, 13 avril, 20h30, salle Hockeghem. On a dit que c'était gratuit pour les personnels et les étudiants de l'université de Tours et à prix libre pour les autres. Merci Talia Bachir Loupouité, merci Thomas Loupouité d'être venu dans la Méridienne, émission à retrouver en podcast sur notre site www.radiocampustours.com.